Et en fait, au bout d'un moment, moi, c'était même pas que Château d'eau, ça m'agaçait. C'est juste, en fait, ça correspondait plus à mon besoin parce que j'étais pas assez naturelle. Et en fait, moi, je posais plein de questions. Puis souvent, on me disait, ah, bah, t'as les cheveux trop crépus, t'as les cheveux trop durs. Parce que, tu sais, elle les broche avant de faire les tresses. Et comme moi, j'arrivais les cheveux non défrisés, elle m'arrachait les cheveux, quoi. Et puis moi, au bout d'un moment, je voulais vraiment apprendre à connaître mes cheveux. Donc, j'ai commencé à chercher un peu un centre de coiffure où je pourrais juste avoir un soin, couper mes pointes, avoir quelques conseils pour m'en occuper, la base. Et je suis tombée sur The Coiffeur.
Bonjour, je suis Chantal Soutarçon. Bienvenue sur Beauty Toaster, le podcast dédié à la cosmétique en mouvement. En France, il y aurait entre 20 et 30 millions de personnes aux cheveux texturés. Texturés, ça veut dire bouclés, crépus ou encore frisés. Et lorsque l'on a le cheveu crépus, on ne dispose que d'une centaine de bonnes adresses dans toute la France pour se faire coiffer au naturel. Sur plus de 100 000 salons de coiffure hexagonaux tout de même. Ridicule. Trouver le bon salon, pas trop loin de chez soi, relève alors de la mission impossible. Daba Diokane a quitté l'univers du luxe pour fonder Dioka, un label de qualité et une plateforme regroupant les meilleurs experts en traitement du cheveu afro. Mais Dioka, ce n'est pas qu'un catalogue de bonnes adresses, c'est aussi du conseil et de l'accompagnement pour donner plus de visibilité à ces professionnels qui en ont bien besoin. Allez, à vos écouteurs, c'est l'heure de Beauty Toaster. Bonjour Daba.
Bonjour Chantal.
Qui es-tu ?
Alors je m'appelle Daba, j'ai 33 ans. Moi je suis d'origine sénégalaise et j'ai grandi dans une petite ville en Mayenne, à Laval.
Ok.
Une toute petite ville entre Rennes et Le Mans. J'habite à Paris depuis quasiment 12 ans maintenant. Je suis quelqu'un de joyeux, de déterminé et j'aime bien faire des blagues. Voilà.
D'accord. Et t'as quelle formation à l'origine ?
Alors, moi, j'ai fait une école de commerce.
Ouais.
Je suis diplômée d'un master en marketing. Et à la suite de ce master, j'ai commencé à travailler dans le secteur du luxe. Donc, j'ai commencé chez Hermès. Ensuite, j'ai travaillé chez Louis Vuitton. Et je travaillais dans le département marketing produit pour les accessoires et la maroquinerie. Donc, en fait, mon job, c'était de travailler avec des designers pour créer des nouvelles collections de produits. Je travaillais notamment sur les défilés, sur les collections permanentes. L'idée, c'était vraiment de construire des collections qui soient à la fois esthétiques, qui répondent aux valeurs de la marque et qui répondent aussi aux besoins des clientes.
Ouais.
Donc, j'ai travaillé dans ce secteur pendant quasiment 10 ans. J'ai adoré. J'adorais ce que je faisais, j'adorais travailler avec la création. Et au bout d'un moment, j'ai eu envie un petit peu de voler de mes propres ailes, d'être un peu plus autonome. En plus, je travaillais pour LVMH, donc c'est une marque, c'est une maison qui est très structurée en termes de process. Donc moi, j'ai beaucoup appris, forcément, mais au bout d'un moment, j'avais envie de plus de liberté. Et c'est à ce moment-là, du coup, que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat.
Ok.
Voilà.
Ok. Et pourquoi les cheveux en particulier, du coup ?
Alors, pourquoi les cheveux ? Alors, moi, l'idée, en fait, elle vient de mon expérience personnelle. Moi, j'ai les cheveux crépus. Je les porte au naturel depuis 2013, à peu près depuis 10 ans. Et ça a été vraiment tout un cheminement. Donc, je suis passée par la case défrisage j'étais enfant, comme la majorité des femmes comme nous, voilà. Ensuite, j'ai arrêté les défrisages. Je continuais de porter des tresses, mais je portais pas mes cheveux au naturel. Je portais pas mon afro, mais j'enchaînais les tresses tout le temps. Et j'avais des expériences dans des salons de coiffure plus ou moins bien. J'allais à Château Rouge.
Fameux Château Rouge.
Ah ouais, franchement. Après, moi, à Château Rouge, je dis toujours, tu vois, techniquement, elles sont géniales.
Ouais.
C'est un vrai savoir-faire qu'elles ont, clairement.
C'est le service, quoi.
C'est l'expérience client. Franchement, c'était et en fait, au bout d'un moment, moi, c'était même pas que Château d'eau, ça m'agaçait. C'est juste, en fait, ça correspondait plus à mon besoin parce que j'étais pas assez naturelle. Et en fait, moi, je posais plein de questions. Puis souvent, on me disait, ah, bah, t'as les cheveux trop crépus, t'as les cheveux trop durs. Parce que, tu sais, elle les broche à chaque fois avant de faire les tresses.
Ça.
Et comme moi, j'arrivais les cheveux non défrisés.
Ouais.
Elle m'arrachait les cheveux, quoi. Et puis moi, au bout d'un moment, je voulais vraiment apprendre à connaître mes cheveux. Donc, j'ai commencé à chercher un peu un centre de coiffure où je pourrais juste avoir un soin, couper mes pointes, avoir quelques conseils pour m'en occuper.
La base, quoi.
La base. et je suis tombée sur The Coiffeur. Je suis tombée sur un coiffeur qui a été absolument génial et j'ai passé un super rendez-vous. Ça a été vraiment une expérience qui m'a fait me dire, mais en fait, aller chez le coiffeur, c'est cool.
Ouais, c'est ça.
En fait, c'est sympa. Ça peut être une bonne expérience.
Ouais.
C'était un salon de coiffure, c'était salon de coiffure Gilles Boldron.
D'accord.
Qui était, en fait, c'était rue Berger, donc c'était en bas de mon ancien boulot chez Vuitton à l'époque.
Ok.
Donc, j'ai pris rendez-vous là-bas. Il m'a pris un vendredi soir.
Et c'est un coiffeur expert dans les cheveux afro.
Alors, ou... il s'occupe de tout type de cheveux.
Ok.
Gilles Boldron. Donc, d'accord, aussi bien les cheveux lisses, les cheveux bouclés, frisés, crépus, vraiment tout type de cheveux.
D'accord.
C'est un des premiers d'ailleurs à avoir ouvert un salon de coiffure multitexture à Paris. Et vraiment, pendant 2 heures, il m'expliquait chaque étape de ce qu'il faisait. Mmh. Donc, le shampoing, tu le fais comme ci. Ensuite, là, je vais te poser le masque. Tu vas passer ensuite au casque vapeur, là.
Ouais.
Et il m'a démêlé les cheveux doucement. Mmh. Alors, pour moi, c'était une révélation.
Tu
oh là là. Je redoutais, tu sais, c'est le moment du déménage.
Oui.
Tu redoutes
oui.
toujours.
C'est ça.
Et j'ai rien senti.
Ah ouais.
Une douceur.
Pas de casse.
Hyper. Mais vraiment, genre, je suis sortie pour la première fois de chez le coiffeur. J'avais passé un bon moment.
Ouais.
Et en fait, je sais que d'expérience par rapport à la mienne et par rapport aux femmes que je connais, de ma famille, des amis, etc., que c'est un calvaire pour tout le monde.
Mmh.
Et c'est comme ça que, du coup, j'ai eu envie que d'autres femmes aussi puissent partager de bonnes expériences aussi comme celle-ci. Et donc, c'est comme ça, du coup, que j'ai commencé à créer Dioka. À l'origine, j'étais avec ma petite sœur sur le projet. Finalement, elle s'est recentrée sur un autre métier. Mais toutes les deux, à l'origine, on voulait créer le site pour avoir que des bonnes adresses dans lesquelles on serait bien reçus. On va s'occuper de nos cheveux comme il faut, avec respect, et où on serait considéré.
D'accord. Et ça, c'était en 2020, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Ouais. C'était en 2020, donc on a commencé à travailler sur le projet en 2019.
Ouais.
On a fait une grosse étude de marché, vraiment, on cherchait plein d'adresses. On a commencé à Paris, on regardait tout ce qu'il y avait, et c'est justement en regardant tout ce qu'il y avait, on s'est dit, mais en fait, il y a des adresses qui ont l'air pas si mal, en fait.
Ouais.
Et donc on a commencé en 2019 et on a créé la société, le site en 2020.
D'accord, début 2020, en pleine pandémie.
Alors, juin 2020.
Ah oui,
d'accord. Ouais, en effet.
Après,
la pandémie, si tu veux, pour nous, ça nous a pas déstabilisé tant que ça, parce qu'on s'est dit, c'est pas grave, on est au tout début de notre projet,
ouais,
on a
ça.
Des milliards de choses à faire. Donc oui, clairement, les centres de coiffure, ils nous disaient tous, on peut rien vous dire, voilà. Mais ça nous a permis, tu vois, d'avancer sur le site internet,
ouais, voilà,
de communiquer sur Instagram. Mmh. Donc ça nous a pas tant freiné. Et en fait, quand les salons réouverts et que tout est un peu revenu, pas à la normale, c'était en juin 2020. Mais
En tout cas, il y avait une activité.
Exactement. Et c'était le moment où tout le monde justement voulait retourner se faire coiffer, parce
bien
que
sûr.
Tu vois.
Mmh.
Donc, juin 2020. Donc ça fait 3 ans bientôt.
Ouais.
Non, c'était en août 2020, pardon. Donc, ça fait bientôt 3 ans.
Et donc, Dioka, c'est quoi ? C'est une plateforme, comme tu disais, où on trouve des adresses de coiffeurs ?
C'est ça.
Quoi ?
Alors, concrètement, Dioka, c'est un label de qualité. En fait, c'est un label de qualité qui est décerné à des salons de coiffure qui respectent un certain nombre de critères. Donc, c'est des critères dont qu'on a réfléchi avec notre communauté et en fonction de ce que nous semblait important. Et il y a 3 critères majeurs qui sont revenus. C'est 1, le savoir-faire, l'expertise. 2, l'entretien, l'hygiène, la décoration des salons de coiffure, de l'établissement. Et le 3e critère, c'était l'expérience client.
Ouais.
Est-ce que mon rendez-vous sera pris à l'heure ? Est-ce que, par exemple, il y aura un suivi ? Est-ce que les coiffeuses vont être agréables ?
Ouais. Est-ce qu'il y aura du conseil ?
Faire du conseil, exactement. Donc, et en fonction du coup de ces 3 critères, il y a des clientes mystères qui testent les salons.
Okay.
Parce que nous, déjà, moi, je ne peux pas tous les tester.
Ah, c'est clair.
Et je n'ai pas forcément la science infuse
pour
tout.
Bien sûr, ouais.
Et c'était bien, selon moi, d'avoir différentes femmes avec différents budgets, différents besoins capillaires, qui puissent donner leur avis. Et moi, ça me donne aussi une objectivité par rapport aux salons de coiffure qui aujourd'hui sont mes clients.
Ouais.
Donc en fait, c'est vraiment l'avis d'une cliente, comme vous avez tous les jours, qui vient dans votre salon et en fait qui donne son retour de façon objective, tout simplement. Et en fait, moi j'ai eu l'idée de faire ça via, en fait c'est mon expérience chez Louis Vuitton. Parce qu'en fait, à l'époque, je travaillais aussi sur tout ce qui était test d'usage. En fait, les sacs sont testés par... par
des consommatrices,
exactement.
Des clients.
Alors, ou par des gens du personnel, par exemple, parfois. Et il y a tout un nombre de critères voilà, qui sont notés. Et on regarde, est-ce que ça respecte la charte de qualité Louis Vuitton et tout. Et c'est comme ça, du coup, que j'ai eu l'idée d'implanter ça aussi dans le domaine de la coiffure. Pour un peu structurer tout ça, professionnaliser le secteur. Et donc, du coup, les adresses, aujourd'hui, on peut les retrouver donc, sur le site internet, donc dioka.fr. Sur la page Instagram où on partage régulièrement les bonnes adresses. Elles sont aussi en story à la une par ville. Et donc, du coup, ce sont les deux moyens pour retrouver toutes ces adresses.
D'accord. Mmh. Alors ça, c'est plutôt la partie, on va dire, B2C, mais tu as aussi une partie B2B, pour le coup.
Oui. Alors, donc, en effet, ça, c'est la partie B2C, parce que là, en fait, l'idée, c'est vraiment d'aider les femmes à trouver des adresses de confiance. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte au fur et à mesure de l'activité, c'est que souvent ces adresses que moi je cherchais parce que c'était mon travail avec Dioka, je découvrais des adresses qui étaient hyper qualitatives, hyper bien, mais j'avais mis du temps avant de les trouver.
Ouais,
et
c'est
pas
ça.
Souvent, je regardais donc par exemple leur Instagram, ils postaient de façon pas très régulière ou par exemple ils avaient pas de site internet tout ça. Et je me suis rendu compte qu'il y avait aussi quelque chose à faire en termes de communication.
Ouais, c'est ça.
Donc là, c'est là que j'ai commencé à développer la partie B2B pour aider justement les salons de coiffure à développer leur visibilité et leur communication. Et là, je parle vraiment encore une fois des adresses qui sont qualitative en termes d'expertise.
Oui, voilà.
Parce que celles qui ont du mal à attirer les clientes parce que la qualité du service n'est pas là, bon, bah, du coup, on comprend vite pourquoi.
Ouais.
Mais ce que je comprenais pas, c'est que je trouvais des adresses où il y avait vraiment des experts du cheveu et en même temps qui peinaient à remplir leurs agendas, alors qu'il y a des millions de femmes. Moi, tous les jours sur Instagram, on me demande, mais moi, je cherche une adresse dans ma ville, etc. Est-ce que tu peux m'aider? Et je ne comprenais pas cette déconnexion.
Ouais.
Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait aussi un vrai problème de communication chez les professionnels. Et c'est là, du coup, que j'ai commencé à prendre le virage B2B. Et donc, je propose, du coup, de l'accompagnement pour les salons, pour les aider dans leur stratégie de contenu.
Ouais.
Comment prendre des jolies photos, des vidéos pour donner envie. Sur Instagram, c'est essentiel. Et puis comment se construire une image, parce que chaque salon a son identité propre, veut pas forcément attirer le même type de clientèle, et tout ça, ça se travaille, mine de rien.
Ouais.
Et en fait, il y a le métier de la coiffure, il y a le métier de la communication et du marketing, moi c'est le mien, et c'est là que je me suis dit, bah, venez, on
travaille ensemble.
On travaille ensemble, exactement.
Et alors, combien tu as de salons qui sont labellisés Dioka à ce jour ?
Alors, oui, donc à ce jour, on a 35 salons qui sont labellisés. On est en train d'en labelliser 5 supplémentaires, là.
D'accord.
Donc, c'est en cours, le process de client mystère, etc. Donc, ça prend du temps.
Ouais, bien sûr.
Souvent, ça prend du temps, le temps qu'elles prennent rendez-vous, etc., d'avoir leur retour et d'intégrer ça et de, à chaque fois, faire une communication qui soit intéressante lorsqu'on les référence. Donc, elle a 35. Aujourd'hui, 5 en cours de labellisation. Voilà.
D'accord.
Et l'objectif, c'est de labelliser une cinquantaine d'adresses d'ici la fin de l'année.
Okay.
Mais je vais bientôt avoir fait le tour.
Ouais. Et 50 adresses, on est bien d'accord, qui sont réparties sur toute la France, en fait. Hein, c'est pas uniquement Paris. Hein.
Ouais, c'est toute la France. Alors, c'est majoritairement à Paris,
oui.
Parce que c'est majoritairement qu'elles se trouvent. Après, on travaille avec des adresses aussi qui sont situées à Montpellier, à Toulouse bientôt aussi là, à Bordeaux, à Rennes, au Havre. Donc voilà, dans d'autres villes aussi de France.
Super. Et tu accompagnes aussi, je crois, les propriétaires de salons sur tout ce qui est expansion.
Alors ça, c'est une... j'aurais pas pensé qu'on développait ce type de service, mais c'est ce qu'on m'a demandé, c'est par exemple il y a des adresses qui fonctionnent hyper bien et qui souhaitent ouvrir une deuxième adresse, ce qui est logique hein, vu qu'il y a tellement peu d'offres. Au bout d'un moment, elles ont beaucoup trop de clients, donc l'objectif c'est d'ouvrir.
T'es obligé d'ouvrir un deuxième, troisième salon.
Exactement, c'est ça. Et donc ce que je fais, c'est que du coup, je propose des études de marché. Pour étudier une ville en fonction de quelle est l'offre actuelle dans cette ville Et en fonction de ça, comment ce salon qui veut s'y intégrer peut se positionner.
Okay.
Donc en termes de prestations, en termes de prix, en termes de marque, par exemple, des choses comme ça. Donc je vais vraiment regarder voilà, les salons qui existent, en regardant, bah, voilà, il y a tel salon, ils sont plutôt spécialisés dans tout ce qui va être soins, les prix c'est plutôt ci, c'est plutôt ça. Et proposer du coup au salon qui veut s'implémenter dans la ville, du coup un nouveau positionnement pour être sûr d'être différenciant et d'avoir une offre qui soit complémentaire à celle existante.
D'accord.
Et j'adore faire ça.
Ouais, j'imagine.
Ah ouais. En fait, je me suis rendu compte, moi, du coup, j'adore vraiment aller à la rencontre vraiment des salons de coiffure. Enfin, vraiment me déplacer en France, voir à l'étranger, parce que même dès que je pars en week-end ou en vacances, je profite pour regarder quelles sont les adresses à chaque fois. Et vraiment, j'adore parce qu'il y a vraiment des spécificités à chaque fois qui sont locales. L'année dernière, je suis partie à Marseille. Et c'est vraiment Marseille, c'est aussi une autre façon d'aller chez le coiffeur, de porter ses cheveux.
Ouais.
Et Marseille, typiquement, c'est une ville où il y a très 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 peu d'adresses par rapport au nombre d'habitants.
Ouais, d'accord.
J'étais hyper étonnée de ça, par exemple.
C'est vrai. Ah, ouais.
Bah en fait, quand on y réfléchit, c'est quand même la deuxième ville de France qui est située sur le bassin méditerranéen, avec une forte population, notamment maghrébine. Donc il y a quand même une forte demande de femmes qui ont des cheveux
texturés,
frisés, texturés, crépus. Et j'ai comptabilisé 5 adresses qualitatives dans toute la ville.
Il y a combien d'habitants à Marseille ?
De mémoire, il y en a 1 million 2, quelque chose comme ça.
Ah ouais, quand même. 5 salons ?
Oui.
Ouais, c'est...
J'étais vraiment hyper étonnée.
Ouais.
Donc, si jamais vous avez des envies, ceux qui nous écoutent, vous hésitez, vous ne savez pas forcément où aller, Paris c'est bien, Marseille c'est mieux.
Je pense c'est ça. C'est clair. Ah oui, non, on ne peut pas dire que ça soit un marché saturé.
Ah bah loin de là,
de là. Tout est à faire.
Mais c'est tout est à faire. En fait, vraiment, dans la coiffure multitexture en France, tout est à faire en termes d'adresse, d'établissement. Tout est à faire. Il n'y a plus qu'à. Hein.
Ouais, il n'y a plus qu'à, exactement. Et que représente le marché des salons afro en France aujourd'hui ?
Alors, il y a plusieurs choses. Donc déjà, quand tu regardes le nombre d'établissements de salons de coiffure global en France, t'en as 100 100.
D'accord.
De toute façon, j'ai tout confondu.
Tout confondu.
Tout confondu.
Okay.
T'en as plus de 100 000.
D'accord.
Et quand tu regardes les salons de coiffure multitexture, donc moi ce que j'appelle les salons de coiffure multitexture, ce sont des adresses qualitatives qui ont une expertise sur différentes textures de cheveux, qui proposent des prestations vraiment liées au naturel. Donc ces adresses-là, t'en as une centaine.
Ah oui.
T'en as une centaine.
C'est que dalle.
C'est rien. C'est anecdotique. Et après, quand tu élargis aux salons de coiffure afro, donc là, j'intègre, par exemple, les salons qui sont situés à Château d'Eau, à Château Rouge ou à la Guillotière à Lyon, parce qu'eux aussi, ils ont leur Château d'Eau un peu dans toutes les villes. T'en as environ 300-350 en France.
Voilà, ouais,
si tu remets tout.
C'est pas lourd.
Mais c'est rien. C'est rien du tout. En fait, donc, t'as d'un côté une centaine salons en France qui savent s'occuper des cheveux texturés, on va dire.
Voilà, quand tu dis s'occuper, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas te proposer un brushing, un tissage, etc.
Exactement, pas de façon systématique.
Voilà.
Exactement, c'est ça. Et à côté de ça, on estime en France qu'il y a entre 20 et 30 millions de personnes qui ont des cheveux texturés.
Ok. Comment tu sais ça? Sachant qu'on ne peut pas, soi-disant,
Stats... Alors, t'as les chiffres du crâne qui disent qu'il y a à peu près 6%, je crois, de mémoire, que de la population française qui serait d'origine afrodescendante.
Ok.
Et ensuite, tu as des études privées qui sont faites aussi par des marques comme L'Oréal ou comme Xerfi aussi sur les cheveux texturés.
Ouais, d'accord.
Donc c'est comme ça un peu qu'on arrive à avoir le peu d'infos un peu qui sont disponibles, quoi. C'est ça.
D'accord. Ouais, donc effectivement, comme tu dis, il y a à faire. Et on parle beaucoup du certificat de qualification professionnelle sur la coiffure des cheveux bouclés, frisés, crépus. C'est un certificat qui a été obtenu après des années d'acharnement de la part de Odjampou Livoray, que tu connais, et de Taj, qui était un expert en coloration et qui est aujourd'hui décédé. Qu'est-ce que ça va changer, selon toi, ce certificat ?
Je pense que ça va changer beaucoup de choses. C'est une super avancée vraiment pour le marché de la coiffure. Parce que le problème principal pourquoi il y a aussi peu d'offres, hein, les chiffres qu'on a mentionnés tout à l'heure, c'est parce qu'il n'y a pas de formation, en tout cas au niveau national.
Ouais, c'est ça.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un coiffeur en France, une coiffeuse, se lance dans ce parcours académique avec un CAP, un BP, et ne saura s'occuper uniquement du cheveu raide.
Ouais, je crois qu'au niveau du CAP, on leur propose, je crois, une demi-journée autour du défrisage.
Défrisage, voilà, c'est ça, exactement.
Voilà.
Donc ça, c'est ce qui existe aujourd'hui au niveau public, en tout cas.
Oui, oui.
Et donc cette certification, donc bravo franchement à toutes les personnes qui ont contribué à ce travail, ça va vraiment faire beaucoup évoluer les choses. Je pense que premièrement, il y aura tout simplement de plus en plus de coiffeurs et de coiffeuses qui sauront s'occuper des cheveux texturés, crépus, bouclés, frisés. Donc ça va vraiment redynamiser, je pense, le secteur de la coiffure.
C'est une opportunité aussi pour les coiffeurs qui justement ne connaissent absolument pas le cheveu afro, d'ouvrir leur salon à une clientèle différente.
Complètement.
Voilà.
Complètement. Et je pense que de un, il y aura de plus en plus du coup de coiffeurs et de coiffeuses formés sur le marché. De deux, ça va créer aussi plus de clientes et de clientes qui vont aller se faire coiffer. Donc même sur le secteur de la coiffure lui-même,
ça va dynamiser
d'un point de vue financier, clairement. Et aussi, je pense que ça va faire en sorte que les coiffeurs aujourd'hui un peu plus, qui ont plus d'expérience, en tout cas qui travaillent depuis un peu plus longtemps, s'intéressent aussi à cette texture-là.
Oui, voilà.
Parce que c'est vrai que quand on a l'habitude de faire des choses et que rien ne bouge et qu'on ne demande pas de bouger, personne n'a envie de changer. C'est normal, humain.
C'est humain.
Mais là, de voir que son collègue de la ville a une apprentie qui sait s'occuper de tel type de bouc, etc., que ça lui apporte une nouvelle clientèle, peut-être que ça va du coup susciter des curiosités pour tout le monde. Donc moi, je pense que ça va être ça l'impact. Je pense que l'impact, il peut être que positif pour l'instant. Bon, là, c'est encore tout nouveau. Il y a uniquement quelques écoles de coiffure qui se sont portées volontaires justement pour le mettre en place. Donc ce sera dès la rentrée 2023, il me semble.
D'accord.
Donc ça restera, voilà, c'est une avancée.
Une avancée.
Super, génial. Clairement, on est tous hyper heureux et heureuses qu'elle ait abouti. Il faut que ça suive son cours.
Oui, voilà,
c'est ça. Que ça continue, que ce soit vraiment mis en place et que les gens, que les coiffeurs, que les professionnels comprennent que c'est pas uniquement une question financière.
Oui, c'est
pas uniquement je vais me former, je vais avoir plus de clientes. Non, c'est des clientes qui sont particulières dans le sens où elles n'ont pas l'habitude d'aller chez le coiffeur.
Ouais, voilà, c'est ça aussi.
Qui ont un historique capillaire lourd. Il faut prendre ça en compte.
Ouais, exact.
Et on va chercher une technique chez le coiffeur et on va aussi chercher des qualités relationnelles, de l'empathie, de la bienveillance, qui sera hyper importante pour véritablement capter cette clientèle. La formation toute seule ne suffira pas. Il faudra faire preuve de
psychologie.
Oui, je pense.
C'est clair.
Complètement.
C'est sûr. Et alors le cheveu naturel, c'est un vrai sujet, notamment dans la sphère professionnelle. Un député ultramarin, Olivier Servat, a ou va déposer un texte pour faire interdire la discrimination capillaire dans le milieu professionnel. Que penses-tu de cette initiative ?
Je pense que c'est une bonne initiative dans le sens où déjà ça a permis de mettre en lumière ce problème des discriminations capillaires. Ouais. Donc c'est une proposition de loi, à voir si elle va être adoptée. Donc je pense que l'adoption ou non est prévue pour octobre-novembre 2023.
Ouais,
donc à voir comment ça va suivre son cours.
Ouais.
Mais en tout cas, ce qu'il y a du bon aujourd'hui dans le sens où ça crée une discussion.
C'est ça.
Ça a réouvert cette discussion que nous on connaît toutes en tant que victimes malheureusement de cette discrimination capillaire. Et beaucoup de personnes se disent « Ah mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a des choses qui sont quand même plus importantes que ça. » Oui, c'est parce que vous n'êtes pas concerné en fait.
C'est ça.
C'est pour ça qu'il y a des choses plus importantes pour vous.
Pour vous, voilà, c'est
ça. Ouais. Donc ça le mérite en tout cas d'ouvrir cette discussion et de l'élargir à des personnes qui n'en sont pas victimes. Ensuite, moi je pense, encore une fois, à quel point les entreprises vont vraiment jouer le jeu. C'est-à-dire que pour moi, déjà, la discrimination au travail, c'est interdit.
On est d'accord.
Donc, en fait, cette loi, elle a le mérite d'exister si elle est votée. Mais il y a déjà une loi, normalement, qui existe là-dessus. Donc, c'est pour ça que moi, ce qui me fait peur, c'est que d'une façon ou d'une autre, les entreprises trouvent dans tous les cas une autre façon, en fait, de pas vouloir prendre une personne qui porte des locks, par exemple, au travail. Là, je voyais sur donc là c'est Roland Garros en ce moment.
Oui.
Donc il y a toute une discussion sur les hôtesses et les règles d'épilation, etc. qu'elles doivent avoir. Elles sont obligées de s'épiler, etc. Et il y a une hôtesse qui témoignait du fait que elle avait été refusée un job parce qu'elle portait des locks.
Ouais, d'accord.
Donc on est dans la discrimination capillaire, on est dans la discrimination tout court. Oui. En vrai, c'est déjà puni par la loi.
Ouais, c'est ça. Ouais. Exactement.
Donc j'ai un peu peur après voilà que certaines continuent de jouer les hypocrites.
Bien sûr. Mais il y a toujours un moyen de effectivement comme tu dis de biaiser pour filer la métaphore de Roland Garros passer à travers les trous de la trous de la raquette.
Tout en la raquette. Les mailles du filet.
Les mailles du filet aussi. Ouais, non, effectivement, t'as raison.
Donc,
puis en plus, il faut pouvoir prouver. Mm-hmm. C'est-à-dire que les gens pourront toujours dire non, mais elle a pas les diplômes, elle a pas l'expérience, etc. Enfin,
comment
on prouve.
Aujourd'hui, j'ai l'impression, quand je lisais le témoignage de la dame avec les locks, le recruteur lui avait dit mot pour mot. Donc, j'étais étonnée de qu'il lui dise de façon aussi décomplexée. Mm-hmm. Donc, là, clairement, c'est facile du coup de prouver. Peut-être que justement, ils seront plus.
Ils vont faire plus attention.
Ouais. Donc ça voilà, donc je pense que moi c'est ma seule crainte. Après j'espère que l'un des impacts aussi de cette loi, c'est que ça donne un peu plus de sérénité aussi aux femmes, parce que c'est vrai que on se pose toujours la question avant un entretien d'embauche, comment je vais porter mes cheveux. Est-ce que je les attache, ça fait plus professionnel, ça fait plus sérieux, mais bon en même temps mon afro c'est comme ça, ou même quand on commence un nouveau boulot, il y en a beaucoup qui lâchent pas leur afro avant d'avoir validé leur période d'essai. Donc peut-être que à ce niveau-là, ça va encore plus inciter à porter ses cheveux naturels.
Naturel.
Parce que les freins aujourd'hui, ils sont aussi là. Hein.
Ouais, bah bien sûr.
C'est pas qu'une question d'estime de soi et de diktats de la beauté, il y a ça, mais il y a aussi le fait que concrètement on puisse nous refuser un job. Si financièrement on en a besoin, bon, on est obligé de se plier ou de se plier aux règles. Donc,
c'est ça.
Voilà.
Et quels sont tes projets pour Dioka, tes projets de développement?
Alors, moi, mon souci, c'est que je suis très éparpillée, en toute honnêteté. C'est un de mes objectifs là de cette année, c'est d'essayer d'être plus focus. Mais bon, ça, je pense que beaucoup d'entrepreneurs sont dans cette.
Ouais, t'es un peu obligé. Hein,
on est un peu obligé. Ouais, on teste plein de choses et puis on a un peu l'énergie en fonction des gens qu'on rencontre, des opportunités. Donc c'est vrai que moi j'ai du mal à dire non, mais j'essaie de le faire de plus en plus. Mais si je dois quand même, il y a deux projets vraiment là qui me tiennent à cœur et que j'ai vraiment envie d'aboutir. Donc c'est vraiment développer toute cette partie accompagnement. En marketing, en communication.
Ouais, des coiffeurs.
Vraiment les accompagner sur la réflexion vraiment stratégique en termes d'image, en termes de communication. Les aider vraiment à donner envie, à créer du contenu qui soit désirable sur Instagram, à aider les adresses dans leur projet d'ouverture de salon.
Aussi,
ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Vraiment, les études de marché, j'adore faire ça. Donc, c'est vraiment le premier axe de développement, en tout cas pour moi, qui fonctionne bien pour l'instant et que j'ai envie de continuer à faire, qui me plaît beaucoup. Et aussi, j'ai envie d'organiser un événement dédié vraiment pour les professionnels. Pour qu'ils puissent vraiment se rencontrer, s'échanger sur leurs différentes problématiques, qui sont nombreuses. Et je me rends compte que souvent, ils n'ont pas le temps ni l'énergie de pouvoir échanger entre eux. Et je trouve ça dommage. Moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup rencontrer les gens. J'aime beaucoup l'énergie du collectif. Donc, j'aimerais pouvoir insuffler ça aussi auprès des professionnels. Et la deuxième chose, c'est, comme on expliquait, c'est qu'il y a très peu d'offres aujourd'hui. Et une des manières de solutionner ça, c'est aussi qu'il y ait davantage de formation.
Ouais,
donc,
voilà, c'est
le premier pas avec le CQP. Donc moi j'aimerais potentiellement aussi proposer des formations avec des salons qui sont déjà labellisés Dioka, qui ont cette expertise, qui font déjà des formations aussi, et proposer ça aux coiffeurs et coiffeuses qui souhaitent apprendre, parce qu'aujourd'hui c'est compliqué du coup de trouver des formations même privées. Elles existent, il y en a plein de qualitatives.
Faut aller les chercher.
Faut aller les trouver.
C'est ça.
Là, j'ai une dame de l'éducation nationale de l'Académie de Versailles qui m'avait contactée il n'y a pas très longtemps. Et je lui demandais, mais comment vous êtes tombée sur mon site? Parce que pour le coup, moi, je ne fais pas du tout de formation pour l'instant.
Oui.
Elle me dit, j'ai cherché, je ne trouvais pas. Et je me suis dit, peut-être que vous connaîtriez des gens.
Ouais.
Donc, du coup, je me dis, bon, il y a quelque chose aussi à faire par rapport à ça.
Oui, de ce côté-là, bien sûr.
Et comme, voilà, j'ai les contacts avec des experts vraiment qui travaillent. Ouais. De façon incroyable, j'ai envie de les aider à encore plus partager leurs compétences pour aider d'autres coiffeurs et d'autres coiffeuses.
Ça, c'est encore un autre volet, du coup.
C'est un autre volet, je sais. Mais
il n'y a que 24 heures dans une journée.
Il n'y a que 24 heures dans une journée. Mais s'il y en a qui sont intéressés, qui veulent m'accompagner dans ces différents projets, j'en profite pour lancer un appel. Voilà. Contactez-moi, voilà. Il y a plein de choses à mettre en place, c'est dont on parle. Ce sera avec grand plaisir.
Alors, peux-tu terminer cette phrase ? Je n'aurais jamais pensé que.
Alors, j'aurais jamais pensé que je me prenne autant de passion pour le secteur de la coiffure.
Ah ouais, c'est vrai.
Parce qu'en fait, moi, à l'origine, quand j'ai démarré, c'était vraiment pour aider les femmes qui étaient comme moi.
Ok.
Avec cet objectif de les aider à apprendre à s'occuper de leurs cheveux au naturel. Donc, c'est toujours le cas, clairement. Mais je me suis vraiment prise de passion pour ce métier et pour les coiffeurs et les coiffeuses. J'ai découvert en fait ce que c'était ce métier de la coiffure. Et parce que avant ça, j'avais vraiment dans la coiffure, c'est un métier qui est pas très valorisé.
Ah bah c'est le moins qu'on puisse dire.
C'est quand on a des mauvaises notes au collège, au lycée que les personnes sont dirigées vers ce métier. Moi, je connaissais pas. Honnêtement, je connaissais pas du tout. Et c'est vraiment en lançant Dioka que j'ai passé du temps à rencontrer les coiffeurs et coiffeuses. J'ai visité plus de 150 adresses dans toute la France.
Ouais.
Donc vraiment, j'ai appris à les connaître et j'ai découvert que c'était un métier difficile, que c'était physique, que ça demandait des compétences relationnelles incroyables, de la bienveillance, de l'empathie.
Puis de la technicité,
La technicité.
C'est énorme,
D'être multitâche.
Ouais.
De gérer des équipes. Faut avoir aussi, c'est pas pareil de s'occuper de clientes et de s'occuper d'une équipe de coiffeurs ou de coiffeuses.
De recruter, etc.
De recruter, de gérer tout l'administratif, la compta, des choses qui, je pense, quand on est coiffeur et qu'on a cette fibre un peu artistique, peut-être que j'ai n'importe quoi, mais je me dis que c'est peut-être un peu encore plus compliqué de faire toutes ces tâches qui sont pas artistiques.
Qui sont pas naturelles, quoi. Pour personne.
Beaucoup moins créatives.
Ouais, voilà, c'est ça.
Et ce sont des personnes qui sont vraiment passionnées par leur travail. Et c'est le point commun de toutes les personnes avec lesquelles je travaille, en tout cas. Et honnêtement, vraiment, c'est sincère, j'aurais jamais pensé de me prendre autant de passion pour ce métier-là. Et c'est pour ça, aujourd'hui aussi, que je donne un axe plus B2B.
Ouais.
J'ai plus envie, voilà, de développer cet axe-là pour davantage les aider et pour qu'ils puissent vraiment se concentrer encore plus sur la coiffure, encore plus sur leur passion.
C'est ça.
Voilà.
Super. Merci, Daba.
Avec plaisir. Merci pour l'accueil.
C'est déjà terminé, le temps passe si vite. Merci de nous avoir écoutés. Je profite de ce moment pour vous encourager à soutenir Beauty Toaster via Patreon. Ça ne vous coûtera que 3,50€ par mois, mais ce sera énorme pour votre podcast préféré. Retrouvez le lien direct vers ma page Patreon dans les notes de cet épisode et rendez-vous vendredi prochain, première heure, dans vos écouteurs.